Pourquoi Afrique ?
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du jeudi 24 mars 2016. Morgane Guériec et Anne Albertson en votre compagnie. Au sommaire ce matin,
Denis Sassou Nguesso réélu président du Congo-Brazzaville selon le décompte officiel.
Référendum constitutionnel au Sénégal, le oui l'emporte à 62,71% d'après les chiffres annoncés par la Commission nationale de recensement des votes.
République démocratique du Congo, le gouvernement demande une réduction du nombre de casques bleus de moitié d'ici la fin de l'année.
Attentat de Bruxelles, 3 kamikazes identifiés, un quatrième recherché.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Denis Sassou Nguesso a été réélu président du Congo-Brazzaville. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, à la télévision nationale. Le président sortant, ayant déjà passé 32 ans à la tête du pays, aurait raflé 60% des voix dès le premier tour. Selon le décompte officiel, Guy Brice Parfait Kolelas arrive deuxième avec un peu plus de 15% des voix et le général Jean-Marie Michel Mokoko, troisième avec environ 14%. Hier déjà, ces deux candidats d'opposition contestaient les résultats partiels publiés par la Commission nationale électorale indépendante.
Et sachez aussi que 3 journalistes de l'AFP et du quotidien français Le Monde, couvrant l'élection présidentielle au Congo, ont été agressés par des hommes se présentant comme des policiers mercredi à Brazzaville, à 500 mètres du domicile du général Jean-Marie Michel Mokoko. Il venait de recueillir les propos du candidat de l'opposition.
Référendum constitutionnel au Sénégal, le oui l'emporte à 62,71% d'après les chiffres annoncés par la Commission nationale de recensement des votes. Le scrutin a toutefois été marqué par une faible participation de 38% et des résultats globaux provisoires qui ne deviendront définitifs qu'après validation par le Conseil constitutionnel. Rappelons que la révision de la Constitution implique notamment la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans.
Nouvel appui sécuritaire des États-Unis au Cameroun, sous la forme de matériel sophistiqué, de surveillance des aéroports et des frontières, une assistance qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les insurgés nigérians de Boko Haram. De Yaoundé, un reportage de Moki Edwin Kinzeka, présenté par Michel Joseph.
Les responsables de la police camerounaise ont présenté cette semaine à la presse ces nouveaux équipements. Les confrères ont ainsi vu des ordinateurs et des écrans à partir desquels les policiers camerounais peuvent surveiller les aéroports et les frontières. Ces derniers peuvent, par exemple, recevoir les images des scanners examinant des colis suspects. Martin Barga Ngele, le délégué général à la Sûreté nationale, a souligné l'importance de l'appui américain.
Les États-Unis d'Amérique vont installer dans nos aéroports et postes frontières un système d'identification comparatif et d'évaluation individuelle sécurisée, PICES, qui permettra de mieux contrôler les mouvements des personnes et des biens qui traversent nos frontières.
Les États-Unis avaient précédemment fourni à l'armée camerounaise des équipements militaires ainsi que des conseillers militaires pour appuyer la lutte contre les militants de Boko Haram. Le Cameroun fait face aux insurgés nigérians depuis 2013, lorsqu'ils ont commencé à attaquer ces localités proches de la frontière nigériane.
République démocratique du Congo, le gouvernement demande une réduction du nombre de casques bleus de moitié d'ici la fin de l'année. Il faut dire que le mandat de la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, qui comprend 20 000 hommes, expire à la fin du mois. Pour l'instant, l'ONU n'envisage qu'une réduction de 1 700 hommes et insiste pour que la poursuite du retrait des casques bleus tienne compte de la sécurité sur le terrain.
Mais en face, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, qui s'est adressé au Conseil de sécurité, a insisté sur des négociations menées entre l'ONU et Kinshasa pour une sortie ordonnée et définitive de la MONUSCO de la RDC. Il a fait valoir que l'armée gouvernementale allait renforcer d'ici quelques mois les 3 bataillons de sa force de réaction rapide engagée contre les rebelles dans l'est du pays par d'autres unités permettant ainsi une prise en charge totale des besoins de sécurisation de l'est du pays.
En Guinée équatoriale, le front de l'opposition démocratique a appelé mercredi à boycotter l'élection présidentielle du 24 avril en estimant que toutes les conditions sont réunies pour des fraudes. John Lindon.
L'OFOD appelle ses militants et la population à ne pas aller voter car cette élection est anticonstitutionnelle. Le président Théodore Obiang-Nguema ne respecte ni la Constitution ni les lois, a déclaré un de ses leaders, Guillermo Nguemaela, lors d'une conférence de presse à Malabo. Ce front de l'opposition équato-guinéenne regroupe la Convergence pour la démocratie sociale, seul parti d'opposition à avoir une représentation au Parlement avec un député et un sénateur. L'Union populaire, la Force démocratique républicaine et le Mouvement pour l'autodétermination de l'île de Bioko. L'opposition justifie son appel au boycott par l'absence de commission électorale indépendante, de recensement biométrique et la mainmise absolue du parti au pouvoir sur les médias d'État. Initialement prévu en novembre, le scrutin a été avancé au 24 avril par décret présidentiel sans aucune explication.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le point sur les attentats de mardi à Bruxelles. 3 kamikazes ont été identifiés. Les frères Ibrahim et Khalid Bakraoui se sont fait exploser à 1 heure d'intervalle. Le premier à l'aéroport, le second à la station du métro de Maelbeek, selon les autorités belges. Le troisième kamikaze est Najim Larchaoui. Son ADN avait été retrouvé dans plusieurs habitations louées par les commandos des attentats de Paris, ainsi que sur du matériel explosif utilisé lors de ces attaques le 13 novembre. Il était donc recherché depuis. Un quatrième homme, non identifié, est activement recherché. Il figurait avec Ibrahim El-Brakaoui et Larchaoui sur une photo de vidéosurveillance en train de pousser des bagages à l'aéroport. Son sac contenait la charge la plus importante. Elle a explosé plus tard que prévu après l'arrivée du service de déminage, permettant probablement d'éviter un bilan plus lourd. On compte pour l'heure 31 morts et 300 blessés.
Le président américain Barack Obama a déclaré au lendemain de ces attentats de Bruxelles que sa plus haute priorité est de détruire le groupe État islamique. Chérub Andorcine nous en dit plus.
Prenant la parole en Argentine, le chef de l'exécutif américain s'est aussi engagé à faire tout ce qui est nécessaire pour aider la Belgique, un pays allié et ami, à traduire en justice les auteurs des attentats du 22 mars. Barack Obama a repris les propos émis à La Havane la veille, appelant le monde à s'unir, à œuvrer de concert dans la lutte contre le fléau du terrorisme, sans tenir compte des différences de nationalité, de race ou de foi. « Ma priorité est de vaincre Daesh et éliminer le fléau de ce terrorisme barbare qui prévaut à travers le monde », a ajouté le président américain. Le groupe djihadiste a revendiqué les attentats contre l'aéroport international et le métro de Bruxelles, disant qu'il s'agit de représailles pour le rôle de la Belgique dans la coalition qui lutte contre l'État islamique. Face aux critiques du camp républicain qui lui reproche de ne pas avoir fait assez pour éliminer le groupe État islamique en Irak et en Syrie, le président Obama soutient que toute approche discriminatoire contre les musulmans américains serait erronée et contraire aux valeurs de l'Amérique.
Sachez aussi que sur le front, l'armée syrienne se préparait à prendre d'assaut la ville de Palmyre.
Par ailleurs, le secrétaire d'État américain John Kerry est à Moscou. Il doit discuter aujourd'hui avec le président russe Vladimir Poutine de la transition politique en Syrie. Miley Segal.
Les regards seront tournés vers Moscou pour connaître l'issue de la rencontre entre Kerry et Poutine. Washington souhaite le départ de Bachar al-Assad. Moscou estime que seuls les électeurs syriens ont le droit de décider de son sort. Les pourparlers indirects à Genève font du sur place. Stéphane de Mistura, l'émissaire onusien, souhaite un coup de pouce de John Kerry et son homologue russe Sergueï Lavrov. Lorsqu'ils s'entendent, ça aide énormément, a-t-il déclaré, faisant allusion à la trêve qui tient depuis fin février en Syrie. La feuille de route fixée par l'ONU prévoit la mise en place dans les 6 mois d'un organe de transition censé élaborer une nouvelle constitution et organiser des élections dans un délai de 18 mois. Seulement, les bombardements russes ont permis au régime syrien de regagner du terrain face à ses nombreux opposants. L'annonce surprise, il y a une dizaine de jours, du retrait du contingent russe de Syrie a été perçue comme un signal envoyé au régime pour qu'il entre sérieusement dans les négociations en vue de trouver une solution.
Enfin, un conflit au Yémen. Selon l'ONU, les parties ont accepté qu'un cessez-le-feu prenne effet le 10 avril en préalable à une reprise des négociations de paix au Koweït sous l'égide des Nations Unies, 8 jours plus tard.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
L'État du Sénégal, qui avait lancé un emprunt obligatoire d'un montant de 150 milliards de francs CFA, s'est vu octroyer par le marché la somme de 214 milliards de francs CFA. L'information relayée par le site sénégalais Réussir Business a été annoncée mardi par le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Au Burkina Faso, la course à la succession d'Alizé Tawé Draogo à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie est ouverte. À Ouagadougou et selon le magazine Jeune Afrique, tout le monde y pense, mais personne n'en parle. L'élection doit se dérouler au plus tard au mois de juin, mais déjà plusieurs hommes d'affaires lorgnent le poste. Idrissa Nassa, le patron de Corix Bank, Mahamadi Savadogo du groupe SMAF International et Apollinaire Compaoré, le magnat des télécoms. De nombreux pays africains font face au déficit ou à la lenteur de l'Internet. Comment se porte le marché des ordinateurs dans un tel environnement et surtout lorsqu'on sait que les tablettes et les téléphones portables se vulgarisent? Nous avons posé la question à Gaëlle Nana, chef d'agence des miracles informatiques. Elle est à Douala, au Cameroun.
Effectivement, la concurrence des tablettes et des smartphones bouleverse en quelque sorte le marché de l'informatique. Les ventes en ordinateur ont fortement baissé. Les clients portent entre ces petites tablettes, ces petits smartphones. Tout le monde veut pouvoir être converti d'un partisan tactique. Donc, la meilleure façon de l'être, c'est par des smartphones, c'est par des tablettes.
Gaël Nana, chef d'agence des miracles informatiques à Douala, au Cameroun.
Voilà pour la Minute Éco. Merci, John. On enchaîne sur les sports avec Nicolas Pinault. Bonjour, Nicolas.
Bonjour, Morgane.
Troisième journée des éliminatoires de la CAN 2017 sur le continent.
Le Bénin s'est imposé face au Soudan du Sud 2-1 hier à Djouba. Les écureuils prennent provisoirement la tête du groupe C, emmené par Stéphane Sessegnon, auteur de l'ouverture du score dans le premier quart d'heure. Le Bénin effectue une bonne opération au classement avec 5 points. Le Bénin prend provisoirement la tête du groupe C. Le Mali, qui reçoit la Guinée équatoriale, repassera devant les écureuils en cas de victoire.
Un match à Djouba qui avait lieu sous les yeux du nouveau président de la FIFA.
Gianni Infantino se trouvait dans la capitale du Sud-Soudan. Il a inauguré les locaux de la Fédération Sud-Soudanaise de football. On se souvient, Morgan, que le Soudan du Sud avait été le premier pays africain à annoncer qu'il ne suivrait pas la consigne de la CAF de soutenir le Cheikh Salman en appelant à voter pour Gianni Infantino pour la présidence de la FIFA.
Les autres rencontres ce mercredi?
Oui, la défaite du Tchad à domicile, N'Djamena contre la Zambie, 1-0, grâce à un but de l'inévitable Bwana Ali Samata. La Tanzanie s'est donc imposée à N'Djamena. Les Sao restent bloqués à 0 points et sont pratiquement hors course, tandis que leurs adversaires du jour rejoignent provisoirement le Nigeria à la deuxième place du groupe avec 4 points. Grâce à 2 buts inscrits dans les 10 dernières minutes de la rencontre, Sao Tome et Principe a battu la Libye 2-1. Là aussi, avec 0 point en 3 matchs, la Libye dit adieu à la qualification dans ce groupe mené par le Maroc et le Cap-Vert qui se rencontreront samedi. Ce sera la première rencontre avec Hervé Renard sur le banc des Marocains. Dans le groupe E, le Congo fait match nul en Zambie 1-1, tandis que la Guinée-Bissau bat le Kenya 1-0. Avec 5 points, les Diables Rouges et les Chipolopolo ne se quittent pas en tête de ce groupe. On rappelle, Morgan, que les premiers de chacun des 13 groupes seront qualifiés, ainsi que les deux meilleurs deuxièmes et le Gabon en tant évidemment que pays organisateur.
Autre match, vendredi, Guinée-Malawi, qui aura bien lieu à Conakry, malgré Ebola.
La rencontre, comptant aussi pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2017, aura lieu demain dans la capitale guinéenne. C'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football. La fédération malawite avait demandé sa délocalisation en raison de la réapparition de cas d'Ebola en Guinée.
Et délocalisation, en revanche, du match Belgique-Portugal, mais pour d'autres raisons.
Le match amical, initialement programmé le 29 mars à Bruxelles, a été annulé hier au lendemain des attentats dans la capitale belge. Il aura finalement lieu le même jour, le 29, à Leiria, dans le centre du Portugal. C'est ce qu'a annoncé hier la Fédération portugaise de football. Et on termine, Morgan, comme d'habitude, par les résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain la nuit dernière.
San Antonio a dominé Miami 112-88, Atlanta-Washington 122-101, Milwaukee-Cleveland 104-113, Toronto perd face aux Boston Celtics 79-91, défaite d'Orlando contre Détroit 102-118, New York Knicks-Chicago Bulls 115-107 et enfin Utah-Houston 89-87.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériec en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale ce matin, le Niger. Mamadou Issoufou a été réélu pour un second mandat à la tête du pays, selon les résultats provisoires de la CENI, la commission électorale. Mais l'opposition persiste et signe, elle ne reconnaîtra pas cette réélection du président sortant. Alors va-t-on vers un blocage politique au Niger ? Pour une analyse, Bagassi Koura s'est entretenu avec le professeur Yaya Issoufou, historien et politologue à l'université de Niamey.
Ce second tour est pour moi un cas d'école. Je crois qu'il restera dans les annales de l'histoire politique du Niger parce que jamais une élection n'a été aussi sujette à controverse que celle-ci. Puisque d'un côté, on ne reconnaît pas tout en participant, ce qui est le cas de l'opposition. Et de l'autre côté, on fait tout pour que l'élection se tienne et qu'on remporte ces élections. Donc le gagnant est connu d'avance, le perdant est connu d'avance, donc il n'y avait vraiment pas d'enjeu en ce qui concerne ce second tour, si ce n'est que juste la confirmation de ce que tout le monde savait.
Le candidat du pouvoir a gagné et l'opposition qui n'a pas participé ne reconnaît pas les résultats. Quelle est la prochaine étape pour vous?
La prochaine étape va être aussi peut-être une exécution d'un cas d'école, puisque l'opposition a dit à l'avance qu'elle ne reconnaîtrait pas les instants issus de ces scrutins, qu'elle ne reconnaîtrait même pas le scrutin. Et avant cela, l'opposition a dit bon, qu'elle conteste la Cour constitutionnelle, qu'elle conteste la CENI. Finalement, l'opposition conteste tout.
Est-ce que le Niger va plonger dans la crise politique?
Je ne pense pas, puisque le pouvoir voulait coûte que coûte que les scrutins soient organisés. À partir du moment où les scrutins sont organisés, on ne pourra pas parler de vide institutionnel. Maintenant, est-ce qu'on peut diriger un pays comme le Niger en occultant l'opposition?
Est-ce que le Niger a reculé sur le plan démocratique?
Complètement. C'est un recul incommensurable. Je pense que la ligne de démarcation, la cassure, elle est nette et c'est la mauvaise organisation de ces scrutins. C'est le forcing et surtout l'impréparation qui les a caractérisés. Plus maintenant, c'est que les observateurs, les uns et les autres, ont constaté des fraudes assez massives. Je crois que c'est tout cela, c'est tout ce cocktail qui a produit des élections beaucoup plus de division que de rassemblement et qui ont fait deux camps diamétralement opposés et dont les revendications sont aux antipodes les unes des autres.
Le professeur Yaya Issoufou, historien et politique à l'université de Niamey.
VOA Afrique au Niger à Niamey, 24 heures sur 24 sur 102.5 FM.
Au Congo-Brazzaville, trois journalistes de l'AFP et du quotidien français Le Monde, couvrant l'élection présidentielle au Congo, ont été agressés par des hommes se présentant comme des policiers. C'était mercredi à Brazzaville, à 500 mètres du domicile du général Jean-Marie Michel Mokoko. Les journalistes venaient de recueillir les propos du candidat de l'opposition. Par ailleurs, les télécommunications ont été coupées depuis le jour du scrutin. Idriss Fall a recueilli l'avis d'Eddie Smith, journaliste expulsé de Brazzaville, maintenant basé à Washington.
Officiellement, le gouvernement congolais dit que c'était pour éviter qu'il y ait des fuites d'informations pendant les élections présidentielles. Mais la réalité est que, vu que nous sommes au 21e siècle avec la technologie des réseaux sociaux, le gouvernement avait peur que la réalité puisse apparaître dans le monde entier. Voilà la raison pour laquelle ils ont coupé la communication. Pour citer un ministre qui ne veut pas être nommé, il dit « Nous voulons tricher, mais non, on ne veut pas que le monde voie ce qui se passe. »
Mais normalement, ça devrait durer deux jours, dimanche et lundi, mais on est mercredi, non?
Exactement. Ils ont dit qu'ils vont couper jusqu'à peut-être vendredi, selon les informations que j'ai eues aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont été surpris que malgré le fait que ça a été suspendu, tous les procès-verbaux sont à la disposition de tout le monde. Donc ils ont peur que si on lève cette interdiction, il peut avoir un soulèvement parce que la population, il y aura des communications par téléphone et puis les gens vont peut-être contester leur victoire.
Comment les gens font au quotidien pour communiquer?
Il y a deux ou trois manières. La première que les activistes ont fait, que beaucoup de gens ont téléchargé une application qu'on appelle FireChat. c'est ça qu'ils utilisent. D'autres ont acheté les puces de la République démocratique du Congo. Vous savez, la RDC, c'est le grand voisin de notre Congo. Donc, ceux qui ont cette possibilité d'avoir des applications ou des puces de la République démocratique du Congo peuvent communiquer. La troisième option est qu'il y a d'autres qui ont les moyens de communiquer par satellite.
Comment expliquez-vous qu'en Afrique centrale, les chefs d'État rivalisent à rester le plus longtemps possible au pouvoir?
Ça s'explique parce qu'en Afrique centrale, il y a une dictature féroce. Vous savez, c'est les gens qui, apparemment, quand vous voyez les chefs d'État de l'Afrique centrale, ils sont toujours tirés à quatre épingles. Ils ressemblent à deux gouttes aux Occidentaux. Et puis la deuxième manière est qu'en Afrique centrale, contrairement à l'Afrique de l'Ouest, la société civile est détruite par un pouvoir hyper fort. Donc voilà la raison pour laquelle ces chefs d'État mettent longtemps. Et puis cerise sur le gâteau, c'est le soutien que la France donne à ces chefs d'État, parce que ce sont des régions qui sont riches potentiellement en hydrocarbures et d'autres minerais.
Ellie Smith, journaliste camerounais basée à Washington. À Libreville, la résidence hôtelière, le Maïcha, mis sous scellé par la Direction générale des impôts. L'administration exige le paiement dans un délai de 8 jours de 4,2 milliards de francs CFA dans le cadre d'un redressement fiscal. Mais la patronne de l'établissement, Chantal Miboto Gondjout, est l'ancienne maîtresse d'Omar Bongo. À Libreville, les précisions de Jean-Rovis Dabani.
Pression politique, l'opposante Chantal Miboto en est sûre. La mise sous scellé de son hôtel est motivée par des raisons politiques. Depuis lundi, le Maïcha, résidence hôtelière de luxe située dans le quartier UP de Libreville, a été placé sous scellé par les agents de la Direction générale des impôts. Pas de doute pour la patronne de cet hôtel qui a reçu les journalistes devant son établissement désormais barricadé, c'est une affaire politique. Chantal Miboto.
Nous savons pertinemment, et je l'affirme haut et fort, qu'en général, la Direction générale des impôts n'est qu'un instrument de la présidence de la République pour régler des comptes à la résidence hôtelière de Maïcha, mais particulièrement à Chantal Miboto Gondjout.
Chantal Miboto est la fille de l'opposant Zachary Miboto, président du principal parti de l'opposition, l'Union nationale. Elle est aussi la mère d'Ounaïda Maïcha Bongo, née d'une union avec Omar Bongo. C'est sa fille qui a porté plainte pour faux et usage de faux en France contre l'acte de naissance de son demi-frère, l'actuel chef de l'État, Ali Bongo. Mais la plainte a été classée sans suite. Il y a une semaine, l'opposante avait lancé un défi à Ali Bongo de venir prouver publiquement qu'il est bien le fils d'Omar Bongo.
Je sais très bien que l'élément déclencheur est l'acte de naissance. Eh bien, nous allons aller à l'acte de naissance. Et comme je l'ai déjà dit samedi à Ali Bongo, le débat entre toi et moi est là. Là, je m'adresse à l'héritier. Le débat entre toi et moi, nous devons l'avoir. Et je veux que tu viennes me prouver de manière officielle devant tous les Gabonais que tu es réellement le fils d'Omar Bongo.
Le redressement fiscal n'a rien de politique, a réagi pour sa part le ministre de l'économie, Régis Imongol.
Mais comme toute personnalité morale ou physique, il est clair qu'il y a des obligations fiscales, il faut les respecter, c'est tout. Et je pense qu'on examine tous les dossiers avec transparence, avec objectivité.
La polémique autour de l'état civil d'Ali Bongo, accusé d'être un enfant adoptif né au Nigeria, s'est étalée depuis un an dans la presse gabonaise. La présidence a régulièrement démenti ses assertions et porté l'affaire en justice. Libreville, Jean-Rovis Dabani, VOA Afrique.
Et nous partons maintenant au Tchad. La représentation du HCR initie les réfugiés sur le site de Dar es Salaam aux activités agricoles et de pêche. Le point avec notre correspondant André Cohn-Medjingar.
Le camp de Dar es Salaam, situé à une dizaine de kilomètres à l'entrée de Bagassola, chef-lieu du département de Kaya, accueille deux communautés de réfugiés, à savoir Nigérians et Nigériens. Fuyant les exactions perpétrées contre eux par la nébuleuse Boko Haram depuis 2015, ces réfugiés reçoivent toute la protection humanitaire telle que prévue par le droit humanitaire international. Mais pour assurer leur autosuffisance alimentaire, l'OSR, en partenariat avec SECADEF, Secours catholique pour le développement, va au-delà en identifiant 106 pêcheurs et 113 agriculteurs sur les 7000 environ légalement enregistrés. Ces deux catégories de réfugiés sont reparties en groupements et ont reçu des matériels de pêche et des outils agricoles. Les pêcheurs opèrent sur le bras du lac du village Tagal et les agriculteurs dans le polder Blablim. Adoum Dogo Hassan, un agent du SECADEF, explique le mécanisme.
Une fois donné le matériel, on a formé les pêcheurs dans le cadre des mauvaises pratiques de la pêche. On envisage la construction des fours pour le fumage du poisson et aussi les palettes pour le séchage du poisson. chaussures, tout ce qu'ils trouvent, c'est pour leur famille, pour se prendre en charge. Parce que c'est des gens qui étaient sur les îles. Leur activité, c'est la pêche ou bien l'agriculture. Pour nous, c'est de les sensibiliser à verser quelque chose dans leur caisse de groupement.
Si les réfugiés de Dar es Salaam sont mieux traités, la situation des personnes déplacées internes, environ 4000 logées sur le site de Dar al-Naïm, est peu reluisante. Quand bien même qu'elles sont sous la responsabilité du gouvernement tchadien, les organisations humanitaires leur apportent des soutiens sectoriels compte tenu de leur état de vulnérabilité. Elles bénéficient du SCR et de ses partenaires de forages d'eau à motricité humaine, de tentes, de kits d'hygiène et de cliniques mobiles sous la responsabilité de l'ONG International Medical Corps. Alamin Adoum Issa est le représentant du responsable du site de Dar al-Naïm.
Nous avons fui les exactions de la secte Boko Haram depuis le mois de février 2015 pour être ici. Nous avons tout perdu, nous étions les sans domicile fixe et aujourd'hui, Dieu merci, grâce aux organisations humanitaires, nous sommes logés sur le site de Dar al-Naïm. Nous demandons à notre gouvernement et ses partenaires humanitaires, notamment le HCR, de nous doter des bâches pour renouveler nos huttes qui sont dans un état de délabrement à l'approche de la saison des pluies, de créer des écoles pour nos enfants et des centres d'alphabétisation pour nous les adultes.
De Tagal dans la région du lac, André Kodumadjingar pour la VOA Afrique.
Les Équato-Guinéens sont appelés aux urnes le 24 avril pour choisir leur président. Initialement prévu en novembre, le scrutin est avancé par un décret présidentiel sans explication officielle. Le président Obiang Nguema, au pouvoir depuis 1973, brigue un autre septennat. Estimant que toutes les conditions sont réunies pour une fraude massive, l'opposition appelle au boycott de la présidentielle. Timothée Donong-Maya joint en Floride, Tutu Alicante, directeur exécutif de l'organisation équatoriale Guinea Justice.
On ne peut pas aller dans les élections présidentielles quand l'opposition n'a pas un accès aux médias du pays. On ne peut pas aller aux élections quand l'opposition dépend tellement du gouvernement pour financer son campagne. Si M. Obiang ne donne pas l'argent, CPDS n'a pas d'argent pour faire la campagne. On a une commission électorale maintenant qui est complètement pour le gouvernement. D'entre les 14 membres de la commission électorale, 13 sont des membres du parti politique du président. Donc, il n'y a pas d'espace pour la démocratie aujourd'hui.
Mais faire la politique de la chaise vide, en quoi cela va changer la situation en Guinée équatoriale?
Pour que la situation change en Guinée équatoriale, on doit changer de leadership. Il n'y a pas un changement de leadership. M. Obiang est le président qui est au pouvoir le plus long en Afrique, dans le monde entier. Il est là depuis 36 ans. C'est le moment maintenant pour changer. Il y a des jeunes en Afrique, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire un bon travail, qui sont capables de prendre le pouvoir en Guinée équatoriale et changer.
Mais d'où viendra la pression pour faire changer les choses en Guinée équatoriale, selon vous?
Ça doit venir principalement du peuple. Il y a beaucoup de gens dans le pays qui sont déjà fatigués avec la situation aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas la liberté d'expression. Si tu es dans un pays là où il n'y a pas le radio indépendant, là où il n'y a pas l'Internet, maintenant Facebook, WhatsApp, tout ça là, sont déjà arrêtés dans la Guinée équatoriale. Sans information, sans l'éducation, sans l'espace pour s'exprimer, on ne peut pas attendre quelque chose d'autre. Mais pour moi, d'abord, ça doit venir du peuple même, appuyé bien sûr par la communauté internationale.
Justement, comment voyez-vous la position de la communauté internationale vis-à-vis de la Guinée équatoriale aujourd'hui?
Malheureusement, la plupart de la communauté internationale sont intéressés pour le pétrole en Guinée équatoriale. Il n'y a pas un seul pays que je peux nommer maintenant qui, je peux te dire, est intéressé pour la démocratie ou les droits de l'homme en Guinée équatoriale. Il n'y a pas, même les États-Unis. La plupart du pétrole qu'on enlève en Guinée équatoriale, c'est exporté par ExxonMobil, Marada Hess, ce sont des entreprises américaines. Donc, il n'y a pas un seul pays maintenant que je peux te dire a dans son cœur ou bien dans sa tête ou bien dans sa politique d'extérieur le problème qui affecte la plupart des Guinéens.
Tutu Alicante, directeur exécutif de l'organisation équatoriale Guinea Justice, joint en Floride. C'est la fin de cette édition. Présentation Morgane Guiriec, Anne Albertson en ma compagnie. Ainsi va le monde aujourd'hui. Passez une excellente journée.